Alors, ce que je voudrais faire, c'est avoir un temps de questions. Si vous avez des questions, c'est plus intéressant, c'est plus vivant que si je parlais encore pendant une demi-heure. Mais avant de vous laisser la parole, je veux simplement vous présenter un petit peu plus en détail la façon de EE, c'est-à-dire évangélisation explosive, la façon dont EE présente l'évangile. Alors, comme je l'ai dit ce matin, EE, c'est une formation pour nous apprendre à présenter l'évangile. C'est une formation qui se fait sur plusieurs semaines et on apprend avec des gens qui savent faire. Et c'est beau de dire dans la vie chrétienne, souvent il faut vivre sa vie chrétienne de telle et telle manière, mais on est un peu tout seul pour la vie, notre vie chrétienne, tu sais. Mais quand tu es avec quelqu'un, c'est plus facile. Puis tu peux apprendre. Alors nous, avant d'aller à l'église de Laval, à l'église de l'île Jésus, j'étais pasteur à l'église de Sainte-Rose, c'est aussi à Laval, mais on a fait pendant plusieurs années évangélisation explosive, et ça a été vraiment une bénédiction pour l'église, parce que toute l'église était impliquée dans le projet, c'est-à-dire que chaque personne qui voulait apprendre à évangéliser, chaque personne devait choisir deux partenaires de prière. Alors nous, on était une cinquantaine de membres, soixantaine de membres à l'église. Et puis on avait peut-être une vingtaine de personnes qui étaient impliquées dans les visites et dans la formation avec eux. Et chacun avait deux partenaires de prière. Ça veut dire que presque toute l'église était impliquée dans le projet. Et de toute façon, la Bible parle aussi, ils ont fait ça pendant des années, je ne sais pas s'ils le font encore là. Et donc l'église prie à chaque fois qu'on fait des sorties pour aller rencontrer des gens. Et on apprend en petites étapes comment présenter l'évangile. Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, et puis que tu veux lui présenter l'évangile. Eux ont une approche très respectueuse, c'est-à-dire qu'elle demande, elle nous encourage à demander aux gens si les gens veulent qu'on leur parle de la vie éternelle. Tu sais. Il y a une façon, disons un petit peu, qui convient au contexte américain là, de faire EE, mais on peut très bien adapter dans nos milieux aussi. Là. Mais toujours est-il, c'est que c'est une façon très respectueuse. Tu demandes aux gens l'autorisation de témoigner. Alors, c'est un peu surprenant parce que aujourd'hui, si on demande l'autorisation à quelqu'un de témoigner, souvent on a peur que la personne nous dise non. T'es. Mais on a des moyens, il y a des moyens qui nous sont donnés à la formation pour intéresser les gens. T'es. Généralement, nous, quand on faisait des visites de gens d'église, le but, c'était pas de faire du porte-à-porte, là. Le but, c'était d'organiser des visites avec des gens qui nous visitaient, qui étaient des visiteurs à l'église. Ou des gens qui n'avaient pas pris position pour le Seigneur à l'église. Des gens, on savait pas trop si c'était converti à l'église ou pas, là, tu sais. Donc, le but, c'est d'essayer d'avoir des contacts, ce qu'on appelle des contacts divins. Tu sais, on priait le Seigneur pour que le Seigneur nous envoie des contacts. Ça, pour qu'on ne soit pas obligé de faire du porte-à-porte. Tu sais. Bon, si à un moment donné, une après-midi, une soirée, on n'avait pas de contact, on faisait un peu de porte-à-porte, mais ce n'était pas beaucoup. Tu sais. Mais même en faisant du porte-à-porte, on pouvait tomber sur des gens qui avaient vraiment envie d'entendre parler de l'Évangile. Tu sais. Donc, c'était vraiment intéressant. Alors, quand on se présente chez quelqu'un, on y allait par équipe de trois. Tu sais. Équipe de trois, parce que ça nous évite d'avoir un homme et une femme ensemble. Tu sais. Parfois, ça peut être un peu ambigu, ça. Donc, c'était soit deux hommes, une femme, deux femmes, un homme. Et au cours de la conversation, il y en a un dans l'équipe, on est trois, donc il y en a un dans l'équipe qui est chargé de présenter son témoignage personnel. Alors, quand on fait une formation pour évangéliser, c'est bien d'apprendre à donner son témoignage personnel. Comme c'est bien d'apprendre aussi à expliquer de manière objective qu'est-ce que c'est que l'Évangile. Alors, le témoignage personnel, on avait appris à le faire en 2-3 minutes. Tu peux faire un témoignage personnel en 2-3 minutes. Et on utilisait un concept. Parce que quand on vient au Seigneur, souvent notre expérience tourne autour d'un concept particulier. Par exemple, quelqu'un peut dire « Moi, je suis venu au Seigneur parce que j'avais peur de la mort. » Alors, dans son témoignage, en 2-3 minutes, la personne pouvait dire « Moi, j'étais, dès ma plus jeune enfance, dès ma tendre enfance, j'avais peur de la mort. » Et puis, on encourage les gens à donner des exemples concrets. j'avais peur de la mort. Parfois, le soir, quand je m'endormais, tu sais, avant de m'endormir, j'avais un peu de mal parce que je pensais à la mort. Ou quand mon grand-père est décédé, ben, à un moment donné, tu sais, la peur de la mort m'a saisi, là, tu sais. Et puis, ou vous pouvez raconter une histoire où quand vous étiez en train, ben, une histoire vraie, là, pas inventée, là. Et quand j'étais en train de faire du camping, il y a eu un orage tellement fort, tu sais, que là, j'ai vraiment eu peur de mourir, tu sais. Et puis, dans ce témoignage personnel, on introduit une petite phrase qui dit ceci. Puis, à un moment donné dans ma vie, j'ai reçu le don de la vie éternelle. L'expression qu'ils utilisent, c'est recevoir le don de la vie éternelle. T'sais. Parce que dans certains contextes, parler d'être sauvé, ça passe pas très bien, ça dépend du contexte, donc il faut adapter ça. Mais disent, bon, j'ai reçu le don de la vie éternelle. Et sans expliquer, ils n'expliquent pas ce que c'est que recevoir le don de la vie éternelle. T'sais. Vous avez le concept, j'ai peur de la mort. Vous donnez une image, voilà un exemple comme quoi j'ai eu peur de la mort. Puis là, j'ai reçu le don de la vie éternelle, petite phrase. Et maintenant, je n'ai plus peur de la mort. Donc, le concept, vous le reprenez en disant que maintenant, ça a changé, j'ai plus peur de la mort. T'sais. Donc, ça peut être fait ça en une ou deux minutes, c'est pas long. Et quand c'est fini, ben, la question qu'on posait aux gens, c'est est-ce que tu veux que je t'explique qu'est-ce que ça veut dire de recevoir le don de la vie éternelle? Alors, c'est comme ça qu'on demandait l'autorisation aux gens de, comment dirais-je, d'aller plus loin dans la présentation de l'Évangile. D'accord? Ça, c'est une des approches de eux. Une autre approche de eux, dans l'introduction, bon, ils te donnent des conseils, essayer de trouver des points de contact avec les gens. Quand tu rentres dans leur maison, tu veux leur parler, tout ça, pour établir un contact plus, disons, il y a plus davantage de confiance, tu vois. Par exemple, si tu vois une photo sur un meuble avec un voilier, puis tu vois la personne que tu visites à côté du voilier, ben, si toi, tu as déjà fait du voilier, tu sais, ben, tu peux carrément mettre le sujet du voilier sur la table, tu sais. Ah, vous faites du voilier, vous? Ah ouais, moi j'ai fait du voilier. À un moment donné, j'avais un voilier, tu sais, puis je partais en vacances en voilier. Mais moi aussi, j'ai fait du voilier l'année dernière. Tu sais. Puis là, on commence à parler de quelque chose qui sert de point de contact, qui sert de lien, là, tu sais. Alors, avant de présenter l'Évangile, là, c'est bon de faire des liens. Alors, ça peut être avec les enfants, par exemple, parce qu'ils ont des enfants. Ça peut être avec un animal, ça peut être avec tout ce qui fait partie de leur vie quotidienne, là, tu sais. Donc, tu essaies d'établir un contact avec la personne avant d'aller plus loin dans l'Évangile. Puis après, une fois que tu as établi le contact, dans le groupe des trois, il y en avait un qui est désigné pour donner son témoignage personnel en 2-3 minutes. Ou le chef d'équipe qui connaît le témoignage, le sien bien sûr, et celui des deux autres, chef d'équipe peut dire « Bon, ben, à toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as reçu le don de la vie éternelle ?» Tu sais? Alors là, t'expliques. Moi, j'utilisais souvent dans mon témoignage le côté de la religiosité, parce que j'avais été élevé dans une famille chrétienne, tu sais. Puis j'avais compris à un moment donné que c'était pas la religion qui me permettait d'avoir le don de la vie éternelle, de recevoir le don de la vie éternelle. Donc moi, j'avais concocté un petit témoignage autour de ça. Alors si mon chef d'équipe, il voyait dans la conversation que ce témoignage-là était pertinent, mais là, il se tourne vers moi, puis il me dit, Philippe, est-ce que tu peux dire comment tu as reçu le don de la vie éternelle? Ou si la personne, elle dans les contacts qu'on a avec elle, elle avoue qu'elle a peur de la mort. Ah, je sais que Christian est avec moi dans l'équipe, puis lui, il avait peur de la mort avant de recevoir le don de la vie éternelle. Alors, je me tourne vers lui, je dis, Christian, est-ce que tu peux nous donner ton expérience personnelle, là, en 2-3 minutes, t'sais? Vous voyez, il y a une certaine approche qui est intéressante, là, dans ces visites d'évangélisation qu'on peut faire. Mais un autre élément, je ne vous donne pas tous les détails, mais un autre élément qui est très important, c'est de pouvoir poser un diagnostic sur la situation spirituelle d'une personne. Alors, je ne sais pas si vous savez poser un diagnostic. Sais-tu?
Comment poser un diagnostic?
Alors, je vois que tu fais ça, là, ça veut dire, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Ou tu sais?
Non, mais je ne sais pas.
Ah, ok. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, et Luc il le sait, Suzanne aussi, parce qu'ils ont fait eux aussi. Mais il y a une manière de poser une question, de poser deux questions pour faire un diagnostic sur la situation spirituelle des gens. Et ça c'est bien utile. Ça, c'est bien utile que vous... Il le sait, votre fils? Hein? Comment?
Au début, il demande à la personne pour savoir comment il réfléchit, c'est ça?
Non, c'est pas tout à fait comme ça. La première question, c'est celle-ci. Écoutez, disons que moi, je visite Christian, et puis on a un bon petit moment ensemble, puis il me parle de son pays, il me parle aussi de la France, parce qu'il aime beaucoup ça, la France. Puis, voilà. Puis moi, j'y parle de la France, et puis j'y parle de soccer, puis il me parle de soccer, puis déjà, on est en train de sortir la bière et ça va bien. Non, non. Alors, on parle ensemble, puis à un moment donné, je pose la question, je lui dis écoute, Christian, je souhaite pas que ça t'arrive, là, tu sais, on souhaite ça à personne, mais tu sais qu'on va tous mourir, là. Mais si tu mourais aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'aller avec Dieu? Est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? C'est intéressant comme question, là. Parce que si la personne, elle est réellement sauvée, elle va te dire oui. Si la personne, elle n'est pas sauvée, elle va te dire j'espère. Elle ne va pas te dire oui, je suis sûr. Elle va te dire j'espère. C'est... Ou elle peut être sauvée, mais elle peut douter. Ça peut arriver, tu sais. Mais ça, on le voit avec la deuxième question. Alors, vous voyez, c'est poser la question, si aujourd'hui tu mourais ce soir, est-ce que tu penses que Dieu que tu irais au ciel avec Dieu? C'est bon. Deuxième question à poser, qui est aussi intéressante, c'est si tu te présentais devant Dieu ce soir, et puis que Dieu te posait la question, pourquoi est-ce que je devrais te laisser entrer au ciel? La personne, elle t'a peut-être dit, oui, moi je suis sauvé, tu sais. Ah, Dieu va m'accepter au ciel. La deuxième question, si elle n'est pas sauvée, elle vous dira pas que c'est à cause de Jésus-Christ, là. Elle va vous dire, ah, je pense que Dieu va m'accepter parce que je suis une bonne personne. Je pense que Dieu va m'accepter à cause de mes bonnes œuvres. Ah, là, tu te dis, en écoutant ces deux réponses-là, tu peux avoir un diagnostic spirituel sur la personne. La personne, soit elle n'est pas chrétienne, soit elle est religieuse. Elle pense qu'elle l'est peut-être, mais elle est religieuse, elle n'a pas compris l'évangile. T'sais. Avant même de lui présenter l'évangile, ces deux questions-là te permettent d'établir un diagnostic sur la situation spirituelle de la personne. Et là, évidemment, c'est très utile quand tu présentes l'évangile. Parce que si la personne te dit « Ouais, je pense que Dieu va m'accepter parce que j'ai fait des bonnes œuvres », quand tu vas présenter l'évangile, là, tu vas insister sur quoi? Sur la nature pécheresse de l'être humain et sur la grâce. Et aussi sur l'œuvre de Christ, mais tu vas insister de manière particulière parce que tu as posé un diagnostic. Tu sais. Alors, ça, c'est deux questions qui sont intéressantes. Pour ceux qui ont fait la formation EE, certains ont des petites pines. Puis il y a deux questions, là. Alors, quand tu te promènes avec ça, moi je ne l'ai pas amené, là, mais quand tu te promènes avec ça, tu as deux questions, tu as souvent des gens qui disent bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire, tes deux questions, là? Tu veux vraiment savoir ce que ça veut dire, deux questions? Ah ouais, je veux savoir. Ben, est-ce que tu veux que je les pose, les deux questions? Ah ouais, je voudrais qu'ils me les posent. Ah ben, j'ai posé deux questions. Puis là, je vois si la personne, je vois où est-ce qu'elle en est spirituellement en lui posant ces questions-là. Alors ça, c'est des éléments préparatoires quand on veut présenter l'évangile, quand on veut faire des visites. Ça, c'est vraiment intéressant, tu sais, d'utiliser ces trucs-là, mais il faut le faire naturellement, hein. Faut pas commencer à faire peur aux gens avec la mort, là, tu sais. Faut y aller naturellement. Bon, il y a des étapes à franchir, là, j'en passe certaines, mais on va arriver à quelques illustrations qui sont utilisées par eux, que vous pouvez utiliser même quand vous présentez l'évangile, même si vous n'utilisez pas eux. Tu sais. Quand ils parlent de la grâce, c'est sûr qu'ils vont parler du ciel, qui est un don gratuit. T'sais. Bon, il y a les versets à l'écran, je ne vais pas vous les lire, là, mais on utilise évidemment les versets bibliques, en disant que c'est un don gratuit. Et dans EE, on précise que si c'est gratuit, c'est qu'on ne peut le gagner ni le mériter. Quelqu'un qui dit « Oui, Dieu va m'accepter au ciel parce que j'ai mené une bonne vie », la personne ne comprend pas, là. Ne comprend pas que tu rentres pas au ciel parce que tu l'as gagné. Tu ne peux pas le gagner, tu sais. Donc, quelqu'un qui se voit déjà pécheur, tu sais, qui est convaincu qu'il est pécheur, quelqu'un qui est convaincu qu'il n'ira pas au ciel, tu sais, t'as pas besoin d'insister lourdement, tu sais, sur, par exemple, le fait que l'homme est pécheur, tu sais, tu te rends compte que la personne, elle le sait, là, tu sais. Mais quelqu'un qui est religieux, là, tu peux mettre un petit peu plus d'emphase là-dessus, d'accent là-dessus. Alors, il y a une image qui est utilisée dans eux, il y a plusieurs images dans eux, là, qui sont intéressantes, mais c'est le cadeau d'un ami. C'est pour montrer à quelqu'un que le don du ciel, le don de la vie éternelle, c'est un cadeau. Ben, on peut utiliser l'illustration d'un ami qui nous donne un cadeau. T'sais, imagine-toi, là, un ami vient chez toi et puis il te donne un cadeau pour ton anniversaire. Là. Est-ce qu'il est obligé de donner le cadeau, là, t'sais? Il n'est pas obligé. T'sais? En fait, la personne qui est obligée de te donner un cadeau. Mais toi, là, tu reçois un cadeau, qu'est-ce que tu fais? Si ton ami te donne un cadeau, bah, tu sors ton portefeuille, puis tu donnes 100 dollars. Tu évalues le prix du cadeau, puis tu dis, je te donne 100 dollars. Est-ce que c'est ça que tu fais? D'habitude, on ne fait pas ça. À la limite, on dit, tu n'aurais pas dû. Mais on le prend pareil, puis on est content, puis on le remercie. Tu sais. Ben, avec le Seigneur, c'est pareil. La vie éternelle, c'est un don gratuit. Dieu veut nous donner quelque chose, c'est gratuitement. Alors, l'image peut être assez intéressante pour montrer à quelqu'un qu'il n'a pas besoin de gestes religieux pour recevoir un cadeau de la part de Dieu. Tu sais. Vous avez un autre... Alors, vous voyez, il commence à présenter l'Évangile en parlant de la vie éternelle, parce que le concept de vie éternelle, c'est peut-être moins chargé religieusement que le paradis ou tu sais, être sauvé. Tu sais, pour certaines personnes, c'est un langage trop religieux. Ça, tu sais. Quand tu dis vie éternelle, ça passe peut-être un peu mieux. Tu sais, donc c'est comme ça qu'ils abordent la question. Et il commence avec la grâce. Hein, il commence avec la grâce. Et au lieu de commencer par le fait que tous les hommes sont pécheurs, etc., il commence avec la grâce. Mais ce n'est pas parce qu'ils commencent avec la grâce qu'ils vont laisser de côté le fait que l'homme est pécheur. Alors ils vont citer d'autres définitions, ils vont expliquer ce que c'est que d'être pécheur en parlant des versets bibliques, et notamment ils donnent l'illustration des trois péchés par jour. Alors l'être humain, pour venir à Dieu, il faut qu'il réalise son péché. T'sais. S'il ne réalise pas son péché, il n'a pas besoin de Dieu. T'sais. Il n'a pas besoin. Jésus, il est venu pour sauver et guérir ceux qui étaient malades. Hein. Ceux qui pensent avoir pas besoin de lui, ben, tant qu'ils n'ont pas pris conscience de leur péché, ben, on ne peut pas faire grand-chose. T'sais. Alors, l'image des trois péchés par jour, c'est intéressant parce que, en définissant le péché, on peut leur expliquer ce que le péché est. Donc, le péché, c'est commettre le mal. D'accord ? Hein? Mais il y a aussi des péchés par omission. Il y a des péchés que l'on fait parce que, au lieu de faire le bien qu'on devrait faire, on ne le fait pas. Alors, il y a des péchés qu'on commet directement, le meurtre, le vol, les mensonges, la jalousie, l'envie, la cupidité, parler contre son frère ou contre les gens, etc. Tu sais, c'est des péchés qu'on commet, on les pose, les gestes là. Mais d'autres fois, il y a des gestes qu'on devrait poser, qui sont bien, mais qu'on ne le fait pas. Tu sais. Puis tu as des péchés qui sont conscients, puis tu as des péchés qui sont inconscients. D'accord ? Il y a des péchés qu'on a par pensée aussi, tu sais, et qu'on ne... qui ne se concrétisent pas toujours, mais qui sont quand même des péchés. T'sais. On peut vouloir du mal à quelqu'un sans aller le tuer. T'sais. Je veux dire, mais c'est quand même un péché en pensée. Alors on commence à décrire un petit peu ce que c'est les péchés, puis on dit, d'après toi, une bonne personne, combien de péchés elle fait par jour? Ben, tu leur dis, on dit pas aux gens, je vais te dire maintenant l'histoire des trois péchés par jour. Hein. Ça ne faut pas le dire. Hein. Ça, c'est le nom de l'illustration qu'on utilise. Alors tu poses la question, tu dis, ben, écoute, ce serait combien? Alors la personne te dit, oh, je ne sais pas moi, ouais, deux, trois péchés par jour, ou quatre ou cinq, je ne sais pas. Tu sais, parce qu'on fait beaucoup de péchés hein, en pensée, là, en parole. Tu sais, on a fait, quand tu décris le péché, il faut montrer aux gens que finalement on en fait pas mal, tu sais, à chaque jour. Là, tu sais. Alors tu dis à la personne, ben, écoute, moi je te suggère là, que quelqu'un qui est une bonne personne, elle fait trois péchés par jour. Tu sais, un le matin, un midi, un le soir, pas trop pire, là, tu sais, là. Puis le reste du temps, t'en fais pas, là, c'est génial, là, tu sais, là. T'en fais juste le matin quand t'es sur l'autoroute, là, tu sais, et puis t'es pris dans le trafic, là, puis bon, tu fais trois péchés par jour. Alors bon, ok, trois péchés par jour, c'est pas mal. Mais trois péchés par jour, là, dans une année, ça te fait combien de péchés? Si t'arrondis, ça fait 1000 péchés. Et si tu vis la même moyenne de longévité, enfin, de la plupart des personnes, un homme vit combien? 84 ans? À peu près. Une femme, combien? 90? Ah, c'est pire! Parce qu'une femme va faire... Une femme va faire 90 000 péchés, alors qu'un homme va en faire 83 000. Eh, on est meilleurs, hein, les gars? Non, ça fait pas partie d'illustration. Hein, vous savez. Donc, l'idée, c'est de ne pas minimiser le péché, de ne pas non plus accabler les gens par des accusations qui n'en finissent plus, mais de démontrer la réalité. T'sais. On est pécheur. T'sais. En fait, si je me considère comme quelqu'un qui ne pêche pas beaucoup, je vais quand même arriver en présence de Dieu avec une tonne de péchés à lui présenter. Alors, et puis évidemment, on peut mettre ça en contexte avec Matthieu 5, 48, où Jésus dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ça, c'est les exigences de Dieu. Donc, voilà. Et un autre élément, quand on parle de l'être humain, évidemment, c'est que l'être humain ne peut se sauver lui-même. Alors, vous avez le verset, le proverbe, « Telle voie paraît droite à un homme, mais c'est à la, au final, ça mène à la mort. » Mais vous pouvez utiliser l'image de l'omelette avec un œuf pourri. Ça, c'est une belle image pour montrer aux gens comment le péché nous affecte. T'sais. Quand tu fais une omelette, tu mets des œufs dedans. Puis admettons que dans ton paquet d'œufs, tu en as un qui est pourri, et puis tu ne l'as pas vu. Tu casses ton œuf, puis l'œuf, il tombe, enfin, l'œuf, il tombe dans la poêle, alors que tu en as déjà cassé une demi-douzaine. Là. Qu'est-ce que tu te dis? Ah, tu te dis, c'est pas grave. Je vais essayer d'enlever la partie pourrie, là. Ben, c'est un peu difficile d'enlever la... Ben, t'as essayé de faire ça? Alors, l'illustration souligne que un œuf pourri, ça suffit pour rendre inutilisable l'omelette que tu es en train de faire. Même si les autres œufs sont bons, un œuf pourri, ça suffit à gâter tout ça. T'sais. Et en fait, c'est la même chose avec nous. Un péché, ça suffit à nous rendre coupables de toute la loi. T'sais. Donc, c'était une autre image pour expliquer aux gens ce que c'est que être pécheur. Parce qu'être pécheur, ça ne veut pas dire que l'être humain n'est pas capable de faire du bien. L'être humain peut faire beaucoup de bien. Mais le fait d'être pécheur, ça veut dire que ton bien, tout le bien que tu fais, est gâché par ton péché. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que c'est important que cette question du péché soit réglée devant Dieu. Là, t'sais. Bon, voilà donc une autre image pour bien utile, deux images bien utiles quand on veut présenter l'évangile à quelqu'un. Alors après ça, quand on parle de Dieu, c'est la troisième étape quand on parle de l'évangile en utilisant la méthode EE. Entre parenthèses, ces illustrations, vous pouvez aussi les utiliser si vous présentez l'évangile avec la méthode du pont, là, tu sais. Vous pouvez les utiliser aussi, ça va très bien de mêler un petit peu les deux présentations jusqu'à un certain point. Alors, Dieu est amour et il ne veut pas nous punir. La Bible nous dit véritablement que Dieu est amour. Et puis c'est important d'insister sur ça, tu sais, Dieu est amour, parce que tellement de gens en ont contre Dieu. Dieu est injuste, moi j'ai vécu tellement d'épreuves dans ma vie, Dieu m'a laissé tomber, tu sais, puis on accuse Dieu de tous les maux du monde. Tu sais. Mais Dieu est amour, mais en même temps Dieu est juste. Alors il faut expliquer que Dieu va punir le péché, parce qu'il est juste. Et j'en ai parlé un petit peu cet après-midi. Si tu vas en cour, tu ne peux pas dire au juge, écoute, ne me condamne pas, j'ai volé la banque, et puis ne me condamne pas parce que je suis un bon père de famille, parce que puis tu mets toute ta liste des bonnes œuvres, ça ne marche pas. La justice fait que tu dois être puni pour le mal que tu as fait. C'est pas une question comme, je pense, c'est chez les Égyptiens, là, où tu avais une balance, et puis il fallait que tes bonnes actions penche plus lourd que les mauvaises pour que tu puisses rentrer être accueilli dans la mort par tel Dieu, je ne sais pas trop. Là. Mais ça ne marche pas, ça. Parce que ça ne tient pas compte de la justice face à nos actes, à notre péché, à notre culpabilité. Tu sais. Et le voleur de banque, l'illustration du voleur de banque va un peu dans ce même sens. Hein. Moi, je préfère utiliser des illustrations plus contemporaines, tu sais, t'as un homme qui a enlevé une petite fille, puis la petite fille a été retrouvée morte, etc., et puis le gars passe en cours. Quand ces choses-là viennent de se passer dans l'actualité, puis que tu utilises cette référence-là, ça marque l'esprit des gens, tu sais. Parce que les gens ont été révoltés, tu sais. Vous vous rappelez à Saint-Jérôme, quand le cardiologue Turcotte, il avait tué ses deux enfants. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là, tu sais. Ça a marqué tout le Québec, cette affaire-là, tu sais. Puis il y a eu même un deuxième jugement, parce qu'on pensait que le premier n'avait pas été bien fait, là, tu sais. Mais tout le monde, toute la société était révoltée par l'acte que le docteur Turcotte a commis en tuant ses deux enfants, tu sais. Alors, tu peux pas arriver et puis dire, ah, docteur Turcotte, c'est un bon docteur, tu sais. Puis il a sauvé tellement de gens, là. Il a opéré des gens à cœur ouvert, puis là, on va pas le punir, là, tu sais. Ben non, tout le monde serait révolté par une telle, tu sais. Alors, l'illustration que tu utilisais ici, c'est avec un voleur de banque, tu sais. Un gars qui vole la banque, tu sais. Puis après, il va se présenter pour avoir un autre travail dans une autre banque. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dire à ton éventuel nouvel employeur, ah, c'est pas grave, j'ai volé la banque, mais tu sais, je suis un bon père de famille, et puis j'ai fait tellement de bien dans ma vie, là, tu peux quand même me donner le travail. Tu sais. le gars qui vous interviewe va dire non, pas question, t'as beau avoir fait toutes les bonnes œuvres que tu veux dans ta vie, t'as volé la banque là où tu travaillais, moi je te prends pas, hein. Pas raison, il n'y a aucune raison pour laquelle je te prendrais. T'sais. Alors pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, on réagit comme ça, puis on voudrait que Dieu soit différent de nous, parce que la définition de justice que nous avons, ou le besoin de justice que nous avons, il vient du fait qu'on est créé à l'image de Dieu aussi, et que Dieu est un Dieu juste. T'sais. Alors ça peut faire réfléchir les gens là, t'sais, par rapport à ça. Alors c'est une autre illustration. Après ça, vous avez... Christ, bon ben, c'est important de décrire Jésus, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'à la fois Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu, il est pleinement l'intermédiaire, tu sais, il est meilleur intermédiaire, en fait il est le seul intermédiaire entre nous et Dieu, tu sais, il est le seul chemin, parce qu'il est homme et à la fois Dieu, pleinement Dieu. Et ce qu'il a fait, c'est important, vous voyez, avec eux, on apprend ce paragraphe par cœur, là, pour ne pas oublier certains éléments. Regardez ce qu'il est dit. Il est mort sur la croix, il est ressuscité des morts. Qui d'entre vous, là je ne veux pas nécessairement que vous leviez la main, là, mais qui d'entre vous présente l'évangile en parlant de la résurrection? On sait que les gens ne croient pas à la résurrection, en vrai, d'habitude, là. Les gens, ils peuvent croire aux petits cailloux, là, ou à la, comment tu dis ça, la réincarnation, non, je sais pas quoi, ils peuvent croire n'importe quoi, mais quand tu commences à parler d'un Christ ressuscité, là, tu sais, puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on n'ose pas en parler. Mais la résurrection, elle est au centre du message dans les Actes des Apôtres. Si Christ n'est pas ressuscité, dit Paul, notre résurrection, ça vaut rien, notre foi vaut rien, tu sais. Donc, c'est central, la résurrection. Donc, il est mort sur la croix, il est ressuscité des morts pour payer la dette de nos péchés, afin qu'on puisse avoir une place au ciel, une place qu'il nous offre gratuitement. C'est un don gratuit. Donc c'est important, quand on veut expliquer l'évangile à quelqu'un, que notre proclamation de l'évangile, notre proclamation objective de l'évangile, comprenne ces éléments-là. Bon, peut-être on ne peut pas tout expliquer en une seule fois. Mais c'est important que ces choses-là soient dites à un moment donné, tu sais. Qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, ça fait rien ça, mais il faut que ça soit dit. Alors le dernier point qui est présenté aussi, attendez, non, c'est aussi sur Christ, il y a un autre point qui est présenté sur Christ, dans ce qu'il a fait, c'est... Je vais insister simplement sur un, c'est tétélestai. Quand Christ est mort à la croix, sur la croix, il a dit tétélestai, vous vous rappelez ce que ça veut dire en grec,
hein?
Tout est accompli. C'est... Alors on peut expliquer que Christ a tout accompli à la croix pour pouvoir nous garantir une place au ciel. Ensuite, vous avez... Alors ça veut pas dire que toutes les images, on va nécessairement les employer tout le temps, mais ça peut être bien utile, surtout si on a le temps là, d'expliquer l'évangile à quelqu'un. Ensuite, vous avez la foi. Alors la foi, c'est la clé du ciel. Alors cette illustration est intéressante et je vais vous la faire avec mes clés qui sont dans mon sac. C'est celui-là, merci. Voilà. Alors c'est une illustration bien pratique et moi j'ai surtout plein de trousseaux de clés de la faculté, de l'église, de la maison. Mon petit surnom c'est Saint-Pierre, mais c'est pas vrai. Non, mais vous dites la foi, c'est important, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce que la foi n'est pas. Alors, je vais avancer un petit peu, là. Oups, comment je fais pour reculer, là? Ah, c'est ici. Ah, voilà, là, je suis allé trop loin. Alors, ce que la foi n'est pas. La foi, c'est pas simplement une compréhension intellectuelle. Si, je comprends comment les ascenseurs sont construits, je comprends qu'il y a des gars qui viennent les réparer régulièrement, c'est pour que tout soit en bon état. Mais c'est pas juste ça, la foi. La foi, c'est quand j'appuie sur le bouton, puis que je rentre dans l'ascenseur, puis que je monte. Ça, c'est la foi, tu sais. Donc la foi, elle n'est pas simplement intellectuelle. D'ailleurs, la Bible dit que le diable, il croit, et puis il tremble. Les démons, ils croient déjà, hein, et ils tremblent. Donc c'est pas ça, la foi c'est pas juste une affaire intellectuelle. C'est intellectuel bien sûr, mais c'est plus que ça, d'accord? Et la foi n'est pas non plus purement temporelle, tu sais, c'est pas seulement temporelle. Oh, je décide de partir en République dominicaine, Puis je veux tellement que ce soit un bon voyage, que là je demande à Dieu qu'il m'accompagne dans mon voyage. T'sais. Puis qu'on est surtout du beau temps, là, t'sais, puis que tout se passe bien. Là, t'sais. Puis quand je reviens de voyage, bon, je remercie même pas Dieu parce que j'ai eu un bon voyage, puis je me préoccupe plus du tout de Dieu par la suite. Donc ce que j'ai, c'est que j'ai une foi qui est temporelle. Une foi temporelle, c'est-à-dire c'est une foi qui est ponctuelle pour quelque chose de bien précis. Puis une fois que j'ai exercé cette foi-là, fini, je ne pense plus à Dieu. T'sais? Donc c'est pas ça la vraie foi. Il y a combien de gens, quand ça ne va pas très bien, ils disent, ah ben il faudrait que je lance une petite prière à Dieu là, pour qu'il intervienne dans ma vie. Là. Puis une fois que l'obstacle est passé, on ne pense plus à Dieu. T'sais? Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? Eh bien, c'est un petit peu, on peut utiliser l'image de la clé. Moi j'ai une clé ici qui permet de rentrer dans l'église de l'île Jésus. D'accord? Et puis il faut que j'utilise la bonne clé. Si je n'ai pas la bonne clé, je ne peux pas rentrer dans l'église. Et ce qu'il faut que vous sachiez, si vous voulez rentrer dans l'église, c'est que la clé qui me permet d'entrer, c'est la clé Medeco, qu'on ne peut pas copier. Hein? Il faut faire ça. Faire ça pour un professionnel. Donc c'est une clé qu'on ne peut pas copier. Mais si je ne sais pas, je vais utiliser n'importe quelle autre clé. Puis je pense que c'est la bonne. Mais il n'y en a aucune qui sera bonne à part celle-là. Alors vous pouvez avoir toutes sortes de fois. Il y a des fois, il y a certaines fois qui ne sont pas bonnes. C'est pas la bonne façon d'avoir la foi. Alors, qu'est-ce que c'est la foi? Ah oui, j'ai changé de diapo ici. Alors, il faut que je change ici. Qu'est-ce que c'est, la foi? Eh bien, c'est avoir confiance en Jésus-Christ seul. Le seul est très important. Parce qu'on parlait des catholiques tout à l'heure. Ils ont la foi en Jésus, mais ils ont la foi en qui? Marie, les saints, etc. C'est pas Jésus seul, là. C'est Jésus plus. T'sais? Tandis que la vraie foi, c'est avoir confiance en Jésus seul pour la vie éternelle. Et on nous demande d'utiliser une illustration, celle de la chaise. Alors, si vous êtes dans une cuisine en train de parler à quelqu'un, puis vous lui donnez l'illustration de la chaise, arrangez-vous pour qu'il y ait une chaise vide. Ou allez chercher une autre chaise, tu la mets à côté. Puis là, tu poses la question, disons que je suis chez Christian, là, puis je vais présenter l'évangile. Je dis, Christian, la chaise que je viens de placer à côté de toi, tu penses qu'elle est solide, la chaise? Christian va me dire, oh ouais. J'ai dit, est-ce que tu as confiance là que cette chaise elle peut te supporter? Ah, il va dire, oui, oui. Ah, mais j'ai dit, là, tu n'as pas vraiment confiance. Il va me dire, mais quoi? Ben, j'ai dit, il faut que tu me le montres que tu as confiance. Comment il va me montrer qu'il a confiance? Il va se lever, il va s'asseoir sur la chaise. Ça, c'est exercer la confiance dans la nouvelle chaise là. Hein? Puis avec le Christ, c'est pareil. À un moment donné, il faut que notre foi, elle repose sur lui. Vraiment sur lui seul. Alors vous voyez, il y a des illustrations comme ça qui peuvent nous permettre de présenter l'évangile pour que les gens se rappellent ce que vous êtes en train de leur dire. Et ça aide à la présentation de l'évangile. Alors, on utilise aussi l'histoire de la main du mendiant. Tu sais, quand le mendiant a confiance, ben, il n'est pas là en se disant j'ai confiance, mais qu'est-ce qu'il fait? Il tend la main. T'sais, il tend la main pour que tu lui donnes. T'sais. Et quand la vraie foi, c'est de tendre la main en ayant confiance que Jésus va te donner. Il va répondre. Tu voudrais avoir la vie éternelle? Tu voudrais, c'est ça, être pour toujours avec le Seigneur, en sa présence? Tends la main comme un mendiant. Demande-lui. Puis demande à ce qu'il réponde à ta prière. T'sais. Donc on incite les gens à se tourner vers Christ et à exercer un pas de foi vers le Seigneur. Ça va? Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre élément? Ben voilà, c'est les cinq éléments de l'évangélisation explosive. Alors que ce soit l'évangélisation explosive ou le pont, ce qui est très intéressant, c'est que quand on a une méthode d'évangélisation, quand on témoigne, on ne fait pas que parler. Parce qu'on peut parler du Seigneur, puis on dit plein de trucs, puis après la rencontre, tu es content parce que tu as parlé du Seigneur, mais tu t'arrêtes et tu réfléchis, puis tu dis, mais qu'est-ce que je lui ai dit? Je ne sais plus ce que je lui ai dit. On a tellement parlé, là, bâton rompu, pendant une demi-heure. C'est super, je parlais du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, je lui ai dit que le Seigneur, il fallait qu'il soit sauvé. T'sais. Mais tu te rappelles plus ce que tu as dit vraiment. T'sais. Mais quand tu as une méthode d'évangélisation, t'as point A, point B, point C, là. C'est pas pour casser les pieds aux gens, c'est pour se rappeler qu'est-ce qu'ils ont dit. Pour que s'ils ont été interrompus dans leur moment de partage, ils se rappellent qu'ils ont parlé de la grâce. Ils se rappellent qu'ils ont parlé de l'être humain et ils ont commencé à parler de Dieu. Mais ils ont juste abordé le sujet de Dieu. Deux semaines plus tard, tu as une occasion de témoigner, tu sais ce que tu as dit et tu sais là où tu dois reprendre. Et tu reprends, si tu parles deux, trois fois, quatre fois, tu reprends jusqu'à ce que tu aies fini de faire ta présentation complète de l'Évangile. Quand tu as fini de faire la présentation complète de l'Évangile, cette personne, elle a été évangélisée. Parce que c'est pas parce que je parle du Seigneur à quelqu'un que j'ai automatiquement évangélisé la personne. Je peux lui avoir dit certains éléments, mais peut-être aussi j'en ai oublié certains éléments, tu sais. Mais qu'est-ce que je lui dis ? Est-ce que je suis intentionnel ? Est-ce que je sais que là je dois lui parler de ceci, de ceci, de ceci ? Moi avec mon petit-fils, Gianni, il a 11 ans, et puis il ne veut jamais se coucher, lui, tu sais, casse-pied, nous on veut dormir, puis lui il ne veut pas, tu sais. Mais alors le soir, j'ai dit, je vais te raconter des petites histoires, là, puis il dit, puis à un moment donné il m'a parlé d'aller au ciel, et puis je lui ai dit, bah Gianni, il faut un passeport pour aller au ciel. Alors il me dit, ouais, mais c'est quoi le passeport pour aller au ciel ? Alors je lui ai dit, écoute Gianni, je vais te commencer aujourd'hui à te raconter comment on peut aller au ciel. D'accord ? Et j'ai commencé à lui dire que Dieu est un Dieu créateur, qu'il est parfait. Après je me suis arrêté. Ben, il m'a dit, c'est quoi la suite ? Vous savez qu'est-ce qu'il veut ? Lui, il ne veut pas se coucher. Alors il veut dire que j'y raconte tout d'un seul coup. T'sais. Alors moi j'ai dit, non, la suite, je vais te la dire demain. Alors le lendemain, je reprends là où j'ai laissé la veille. Puis tu sais, l'être humain, il est pécheur. Puis j'explique ce que c'est que le péché. Donc je sais exactement où est-ce que je m'en vais dans ma présentation de l'Évangile avec mon petit-fils. Parce que je veux m'assurer que j'ai abordé avec lui tous les éléments principaux de l'Évangile. Puis vous pouvez faire ça avec n'importe qui. Enfin, avec des gens que vous côtoyez, tu sais. Quand vous êtes dans l'autobus, vous voulez parler à quelqu'un là qui est assis à côté de vous, puis la personne, vous ne la verrez pas plus tard. T'sais. Vous allez peut-être la voir qu'une fois dans votre vie. Alors là, il faut que vous soyez prêt, par exemple, là, parce que vous pouvez présenter l'Évangile en 5 minutes. T'sais. Mais comment vous allez faire là ? Ça se fait aussi. Et une formation dans l'évangélisation nous apprend à présenter l'Évangile à 5 minutes en présentant ce qui est important. T'sais. Et on peut présenter les 5 points qu'on a vus à l'écran en 2-3 minutes, c'est rapide. C'est pas l'idéal. Mais peut-être que si la personne elle est vraiment prête, peut-être que ça va toucher son cœur. Et que le Seigneur va utiliser ça pour l'attirer à lui. C'est ça. Donc voilà, c'est un petit peu... Christian, il est allé par la foi, parce qu'il savait pas trop ce que je voulais dire. C'est bon, Christian. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Voilà. Oui.
Vous êtes évangéliste et après, on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'on a dit. Voilà. Mais par l'esprit, ça arrive, ça. Moi, j'ai déjà évangélisé une bouddhiste, là, qu'elle n'était même plus au travail, elle était... Et puis, j'ai sorti des versets de la Bible. J'ai commencé à avoir la mémoire dans mon don. Alors, après, j'ai dit, mais comment j'ai pu... Voilà, parce que c'était en réserve pour cette personne-là. Mais, voilà, c'est ça. C'est pas tout le temps comme ça.
Mais c'est vrai que la Bible nous dit qu'on n'a pas à se casser la tête pour savoir qu'est-ce qu'on va dire quand on va être arrêté, etc. Le Seigneur va nous mettre des paroles dans la bouche, là, tu sais. Et je crois que ça c'est vrai aussi, que le Seigneur, selon les circonstances qu'on vit, par son esprit va nous guider pour que ce qu'on dit convienne à la situation. Et peut-être que nous on ne s'en rend même pas compte, mais ça convient. D'accord ? Ça c'est un côté de la médaille. Dans le sens que, oui, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que je veux être le plus intentionnel possible pour présenter l'Évangile de la meilleure façon possible. Ça, c'est aussi notre responsabilité. Même si le Saint-Esprit dirige, il conduit, il faut que j'agisse et que je me prépare comme si tout dépendait de moi, Puis il faut que je prie comme si tout dépendait juste de l'esprit. Il faut garder les deux choses en équilibre. Non, c'est ça.
On parle de. Mais voilà, c'est là qu'on prie. Je me retrouve avec une musulmane. Alors, la première question, parce que j'ai tendance souvent à dire qu'on a le même Dieu. Alors, moi, je leur pose la question, mais ton Dieu a-t-il un fils qui s'appelle Jésus? Elle m'a dit non, on n'a
pas le même. Mais là, ce que vous faites, c'est que vous présentez un élément du témoignage, c'est vous centrer ça sur la personne de Jésus. C'est bon? Il faut le faire. Il faut dire aux musulmans qui est Jésus pour nous.
Voilà.
Mais dans la présentation de l'évangile, il y a d'autres éléments qui sont importants, comme on a vu aujourd'hui.
Ben, il y a la vie éternelle.
Oui, mais il y a le fait qu'on est pécheur, le fait que c'est pas une religion, notre...
Hein?
Oui, c'est ça. La foi aussi, c'est quel genre de foi qu'ils ont. Il y a plusieurs éléments. Et puis vous pouvez témoigner à des musulmans en employant les différents éléments qu'on a vus là. Et peut-être que le premier point à regarder, c'est le Christ. Oui, peut-être. Ben, je suis certain que parler de Dieu et de sa justice, mais de sa grâce. Chez les musulmans, le Mohammed, enfin le Dieu de Mohammed, c'est pas le même Dieu de grâce que dans le Nouveau Testament.
Donc, pour aller dans l'éternité, tandis que
ouais.
Nous, c'est Jésus-Christ qui est descendu.
Oui, c'est ça.
Tandis que
c'est
tout le monde cherche le salut par leurs œuvres. Alors,
c'est ça. C'est ça.
C'est vrai aussi.
Merci. D'autres questions? Monsieur Provencher. Non, mais vous savez que la première question est toujours gratuite. Qu'il n'y aura pas, plusieurs questions pour personne. Vas-y, Luc.
Parce que moi, je veux dire une chose. Parfois, je prêche ma belle-sœur. Elle est catholique, elle fait des bonnes œuvres. Elle est vraiment beaucoup de. Alors, quand je lui dis, mais quand même, elle m'a dit, je suis une bonne personne, je vais aller au ciel. Je lui dis, mais t'as pas dit un mensonge parfois. Elle n'a pas menti. Elle m'a dit, oh, pour le petit mensonge, Dieu va me mettre au ciel, va me mettre à l'enfer. Non, Dieu est bon. Alors, je ne peux pas la convaincre, je ne sais pas comment.
Utilisez l'image des trois péchés par jour. Des trois petits péchés par jour. Ah, mais c'est des petits péchés. Ben, 80, elle a dit 90 ans, 90 000 péchés dans sa vie, ça commence à faire même 6 des petits péchés, tu sais. Ça. Oui.
Mais aussi l'image de l'omelette.
Oui, l'image de l'omelette aussi, ouais.
Ça veut dire que à cause de ce petit péché-là, c'est pourri.
Oui.
Dieu a besoin d'interpréter. Donc, donner l'image, lui dire peut-être, sûrement la cuisine, prendre là qu'elle aime faire, qu'elle fait bien, et dire lui, mais c'est souvent comme le faire en cuisine.
Ouais. Soyez parfaits, dit Jésus, comme mon Père est parfait. Il ne dit pas soyez parfaits avec vos petits mensonges de rien du tout. Il dit soyez parfaits comme mon Père est parfait. Et Luc, vas-y Luc, parce que Luc a levé la main là. Sont tous c'est sûr que c'est plus difficile aujourd'hui dans un contexte catholique comme était le Québec il y a plusieurs années. Les gens pouvaient parler de Dieu, tu sais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient même plus que Dieu existe et qui savent même pas que Jésus existe. Donc c'est sûr que c'est plus difficile, mais c'est quand même des concepts qu'il faut présenter même si c'est plus difficile, il faut d'une manière ou d'une autre que quelqu'un soit conscient qu'il est pécheur, même s'il pense que c'est pas vrai. C'est donc notre témoignage, et puis notre description objective du salut peut réveiller la conscience de quelqu'un, même si on est dans un contexte qui est différent. L'être humain, il reste le même, même s'il se voit plus pareil, il reste le même. Il reste touché par le péché, il est affecté par le péché, mais il n'en est pas conscient. Les catholiques, avant, ils savaient, ils étaient conscients du péché. Le prêtre leur tapait sur la tête tout le temps, alors ils se sentaient assez coupables, tu sais. Mais c'est sûr, quand quelqu'un se sent déjà coupable et tu lui présentes la grâce de Dieu, le terrain est plus, on dirait, plus souple, tu sais. Aujourd'hui, le terrain est plus dur, mais il est pécheur pareil, il est coupable pareil. Et puis, quand tu témoignes, et puis que tu témoignes en disant « je », parce que dans une société comme aujourd'hui, ce qui rend notre témoignage plus crédible, c'est quand on parle à la première personne du singulier. « Je », »,« j'ai compris ». Parce que tout ce qu'on a vu ici, là, vous pouvez le dire en « je ». J'ai compris que j'étais pécheur. J'ai compris qu'un œuf pourri dans ma vie pouvait gâcher toute ma vie. J'ai compris que si je faisais 3 petits péchés par jour, là, ça en faisait beaucoup au bout du compte. Souvent, quand on parle en jeu, les gens vont donner plus de crédibilité parce qu'aujourd'hui, les gens aiment entendre les témoignages de quelqu'un. Ils n'aiment pas entendre quelqu'un qui nous moralise. Donc, on peut très bien présenter l'évangile avec le pont, avec eux, etc., en faisant abstraction de nous-mêmes. Et là, ça va être plus dur pour les gens d'écouter. Mais si vous arrivez à personnaliser la manière dont vous témoignez, les gens ne seront peut-être pas d'accord avec vous, mais vont écouter davantage. Voilà. Comment ? Oui. Oui. Mais c'est plus facile à le communiquer, je ne dis pas pour accepter, là, mais c'est plus facile à le communiquer quand vous expliquez que Dieu est saint, parce que vous l'avez compris dans votre vie, en utilisant le « je ». Quand on dit « je », on ne pointe pas du doigt à l'autre, on parle de moi. Je parle de moi quand je dis « je ». Et quand on témoigne en disant « je », les gens acceptent beaucoup plus d'entendre le témoignage que si vous le disiez en disant « tu dois comprendre que Dieu est juste et que tu es mort dans tes péchés ». C'est là, ça tout de suite, c'est les poils, là, ça se hérisse de partout. Là. Donc, mais si tu dis « je », j'ai compris en lisant la Bible que Dieu, c'est un Dieu qui exige la perfection. Puis j'ai compris d'un moment donné dans ma vie que je n'étais pas parfait, même si je ne commettais pas des grosses fautes. J'ai compris que je n'étais pas parfait. Ah ! Quand tu dis « je », on ne viendra pas te contredire dans notre société aujourd'hui. Tu as le droit à penser ce que tu veux.
C'est ça.
Alors, utilisons ça au maximum, tu sais. C'est une bonne approche, ça. Voilà. D'autres questions ? Oui ?
Pour moi, quand je parle avec les personnes de notre génération Z, et quand je demande est-ce que tu seras avec Dieu quand tu mourras,
ouais.
Les réponses, c'est pas je crois oui ou je crois non, c'est plus je m'en fiche.
Ouais, il n'y a pas de Dieu, je m'en fous, c'est pas pertinent.
Et l'apathie, c'est les jeunes maintenant complètement démoralisés de la vie. C'est une question que si je présente l'évangile, ok, et juste continuer avec la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
C'est sûr que quand EE a été présenté, utilisé, ça a été présenté dans un contexte religieux des États-Unis, où déjà un bon pourcentage de gens croient en Dieu. C'est, ça n'a pas été présenté dans un contexte social où la majorité des gens étaient athées. Nous, notre contexte est différent. D'accord ? C'est différent. Maintenant, les gens, ils ont besoin d'un sens à leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas de sens dans leur vie. Dieu n'existe pas, il n'y a rien après la mort. Tu sais, ils ont besoin de trouver un sens à leur vie. Il faut essayer de leur montrer que Dieu remplit ce vide qu'il y a dans leur vie. Et peut-être que le livre de l'Ecclésiaste est une bonne approche pour parler du Seigneur. Mais n'empêche qu'à un moment donné, ces éléments-là, il va falloir les présenter. À un moment donné, il va falloir les présenter, même si notre approche est un peu différente. Et, mais quand on parle en jeu à quelqu'un qui est athée, d'accord, il va quand même écouter ton témoignage, même s'il n'est pas d'accord. Et ce qui est important, c'est qu'il l'entende. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si on veut communiquer l'évangile en pointant le doigt à quelqu'un qui est athée, ça ne marchera pas, c'est sûr. Si à un moment donné, tu donnes ton témoignage ou tu te présentes l'évangile avec ces éléments-là en parlant en jeu, il va davantage écouter. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas écouter pareil. Tu sais. Quand Paul prêchait l'évangile à Athènes, il savait très bien qu'il ne fallait pas présenter la résurrection en tout premier lieu parce que les gens ne l'auraient pas écouté. Mais Paul, il présente l'évangile, il ne fait pas de compromis. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il présente l'évangile, il parle du Dieu créateur, il parle du Dieu inconnu, tu sais, il y a une approche un peu différente. Et puis à un moment donné, pof, il arrive à Jésus-Christ, puis à un moment donné, il parle de la résurrection. Dès qu'il parle de la résurrection, il y a plein de gens qui ont dit oh, « on ne va pas t'écouter, on arrête ça là ». Mais il s'est dit, s'ils ne veulent pas entendre parler de la résurrection, ben je ne vais pas en parler au tout début. Je vais d'abord trouver une approche, et puis à un moment donné, je vais quand même parler de la résurrection. Mais quand même, il y a un certain nombre qui a écouté ce que Paul a dit. Et même si la majorité a dit « on ne veut rien savoir ». Donc c'est sûr qu'on ne va pas présenter l'évangile à quelqu'un qui a un arrière-plan catholique, qui croit déjà en Dieu, en quelque sorte, de la même manière que quelqu'un qui est athée et qui ne croit pas en Dieu. Mais il faut trouver un moyen, quand même, de leur présenter les vérités bibliques. Alors là, dans ma tête, je me dis, bon, moi, j'ai 5 points très importants à la prédication de l'Évangile. Si je prends le modèle de EU, là, j'ai 5 points, j'aimerais lui parler de ça. Maintenant, comment je vais faire pour y parler? Comment je vais faire pour passer ces points-là? C'est une bonne question, c'est pas toujours facile. Il n'y a pas de solution miracle. Comme je dis, il n'y a pas de façon miracle de présenter l'évangile. Mais je ne peux pas dire que quelqu'un a été évangélisé si la personne n'a pas compris les éléments fondamentaux de l'évangile. Voilà. Ça répond, mais ça ne répond pas à la question.
Oui, c'est bon. Oui. Ben, je ne peux pas répéter parce que c'était en même temps moi les
même.
Parce qu'on vit dans un monde de surestime de soi. J'ai raison, toi, tu n'as rien à m'apporter.
C'est ça.
Et puis, c'est au niveau des athées, mais c'est en même temps au niveau même, parce qu'on est aussi dans un environnement multidisciplinaire de quoi. Les têtes, moi je me souviens à l'époque quand les Pentecôtes venaient, chez nous, en Afrique, quand on a commencé à les connaître, et c'était eux pour le ciel, et sans eux, c'était la terre. Même les autres protestants, beaucoup de protestants qui priaient, donc, c'était vraiment très conservateur, très tranchant. Tu ne viens pas chez nous, c'est direct à l'enfer, c'était clair. Donc, dans ce contexte-là, on en arrive où on est devant quelqu'un minimalement croyant, ou bien qu'il faut effectivement y aller, évangéliser, clairement, parce qu'on en a, on est tous des chrétiens, mais finalement, quand on voit ça, et on peut se dire que par moment, j'ai cru avoir été chrétien, mais sans avoir été évangélisé, parce qu'il y a 1, 2, 3 éléments qui manquaient dans cela. Dieu est juste, non, je veux dire, c'est donc, c'est moi je me souviens, j'ai vu à quelqu'un, je lui ai dit, on va parler de la bonne nouvelle. Il a dit, arrête. Jésus, il a dit, c'est fini, je meurs pour vous. Le reste, allez-y, mangez, buvez, jusqu'à votre bon, le ciel est garanti. Et là, c'est un débat qui est ouvert, c'est fermé à la fin. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le bon mot, j'ai lu ce que je voulais et à travers sa question. Mais je pense que le côté athéologique, les gens qui se disent.
Bah, ouais, moi, je pense qu'un élément qui est important, c'est que si quelqu'un ne veut pas entendre, il ne faut pas forcer. Mais ce qu'il faut, c'est construire une relation avec la personne. Moi, je vais vous dire, mon plus jeune, il n'est pas chrétien. Hein, Marc-André, mon plus jeune, n'est pas chrétien. Et il a épousé une fille qui n'est pas chrétienne. Et on a une très, très bonne relation avec eux. Mais vraiment une très bonne relation avec eux. Puis je peux dire n'importe quoi à ma belle-fille. N'importe quoi, tu sais. Je veux dire des choses que je ne pourrais pas dire à d'autres personnes, tu sais. Elle accepte tout ce que je lui dis. Mais elle a elle est réfractaire à parler de Dieu. Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est trouver ce que Dieu apporterait dans sa vie. C'est-à-dire de quelle manière elle a besoin de Dieu. Et puis ce que je veux faire, c'est essayer de lui présenter Dieu à travers cette ouverture-là. Là, je sais que certains points, elle vit des choses difficiles. Et puis moi, je lance comme ça des remarques. Comme je dis, elle accepte tout ce que je lui dis, mais je ne dis pas des choses méchantes, là. Mais même des choses que d'autres personnes lui diraient qu'elle n'accepterait pas, mais de moi, elle va l'accepter, tu sais. Donc, j'essaie de voir, dans ce qu'elle vit actuellement, en quoi Dieu pourrait faire une différence dans sa vie. Et là, j'essaie de lui expliquer ça, tu sais. Tu sais, dans ta vie, si t'es quelqu'un d'extraordinaire, t'as plein de dons, etc., mais regarde ce que tu vis, là. Si t'avais dû dans ta vie, ça serait différent, tu sais. Et puis, j'essaie petit à petit, puis à un moment donné, je vais voir comment le Seigneur ouvre la porte. Mais à un moment donné, il va falloir que je parle de ces éléments du salut-là. Tu sais, mais bien sûr, je peux pas. C'est plus difficile que si elle était catholique, elle croyait en Dieu, puis qu'elle acceptait de faire des discussions de type théologique ou religieuse. Tu sais. Alors là, c'est sûr que ça serait beaucoup plus rapide si elle acceptait de discuter à ce niveau-là. Mais pour certaines raisons, elle en veut à la religion. Tu sais. Alors, c'est sûr que c'est à long terme. Tu sais. On bâtit une relation. Je connais sa vie, je connais ses défis, je connais ses combats, je connais ses souffrances. Puis là, j'essaie de trouver le moyen de lui montrer que Dieu, il peut répondre à ce qu'elle vit. Mais même avec ça, à un moment donné, il va falloir que j'aborde ça aussi, là, toute cette question-là. Alors, je vais peut-être les aborder dans le désordre. Tu sais, là, on présente un modèle pour présenter l'Évangile. Là, c'est quand la situation se présente comme ça. Là. Toutes les situations ne sont pas pareilles. Mais peut-être qu'à ma belle-fille, ce qui va la toucher plus particulièrement, est-ce que ça va être la grâce? Est-ce que ça va être le fait qu'elle se sent pécheur ou pécheresse? C'est quoi qui va la toucher en premier? Alors, lequel point je vais aborder en premier? Ou peut-être je peux aborder plusieurs points en même temps, tu sais. Par exemple, je peux lui dire, ben oui, le Christ, il est pleinement Dieu, pleinement homme. Je dis rien d'autre. J'ai dit ça 2-3 fois. Là, je sais qu'elle le sait. Alors, dans ma tête, je coche, je dis ça, elle le sait. Maintenant, c'est quoi que je vais lui présenter par la suite, là, tu sais, là. L'idée, c'est d'avoir une certaine approche où tu te dis, je veux évangéliser la personne. Je veux qu'elle ait entendu le message de l'Évangile. Après qu'elle accepte ou pas, c'est pas ma job à moi. C'est pas ma responsabilité.
Il y en a aussi certains qui ne veulent pas voir la vérité parce qu'ils veulent rester aussi dans leur péché. Ils se disent,
ben oui.
Ils veulent garder ce qu'ils ont.
Ben
ils
ouais.
ont peur d'affronter la vérité, d'affronter leur péché.
Puis ils vont accepter certaines choses et pas d'autres.
Oui, c'est ça.
Comme à Athènes, dans Acte 17, ils n'acceptaient pas la résurrection. Alors, tant que Paul parlait d'autre chose, un Dieu inconnu, puis tout ça, un Dieu créateur, tout ça, ouais, ça va, on écoute Paul, pas de problème. Ouais. Mais quand Paul arrive, il parle de Jésus, puis il commence à parler de la résurrection, alors on ne veut plus rien écouter. Ah ben, au moins, j'ai essayé de présenter tout ce que je pouvais présenter concernant le salut, puis là, j'arrive au point où ils sont pécheurs, puis ils n'acceptent pas. Ben, écoute, j'ai essayé de présenter le reste. Tu vois? En tout cas, j'espère que ça peut aider, voilà. Et ça peut nous faire réfléchir, en tout cas.